le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour, vous écoutez France Culture. Jean-Luc Gadreau avec vous pour le service protestant jusqu'à 9h. Chaque année, le 16 novembre, et donc demain, est célébrée la Journée internationale de la tolérance. Un mot, une thématique, qui résonne sans aucun doute avec des questions spirituelles, où, en tant que protestant, il y a bien sûr des choses à dire, et peut-être même un regard particulier à poser. Alors avec moi pour en parler ce matin, un spécialiste du sujet, un professeur, un auteur, c'est Olivier Abel que je reçois. Bonjour Olivier Abel.
Bonjour.
Quelques mots de présentation pour commencer. Vous avez 67 ans, vous êtes professeur de philosophie et d'éthique à la faculté de théologie protestante de Montpellier, après avoir été notamment professeur et doyen de la faculté de théologie protestante de Paris, et avoir créé à Paris le Fonds Ricoeur. Vous étiez membre du comité consultatif national d'éthique de 2004 à 2009. À votre actif également, alors, de nombreux ouvrages, mais plus récemment un livre sur la question européenne, Le vertige de l'Europe, chez Labor et Fides, et puis un autre qui nous intéresse un peu plus, sur un philosophe marquant dans l'histoire de la tolérance, c'est Pierre Bayle et les paradoxes politiques chez Michalon. On pourrait aussi ajouter que vous êtes un élève de Paul Ricoeur et d'Emmanuel Lévinas, deux personnalités qui ont largement influencé votre pensée, il me semble.
Ah oui, complètement. Oui. On va le voir d'ailleurs, j'avais pas mal évoqué ces auteurs, et notamment Ricoeur.
Alors je le disais à l'instant, vous êtes professeur d'éthique et de philosophie, vous êtes également protestant, c'est pourquoi vous êtes là dans le service protestant ce matin. Est-ce que le protestantisme confère un regard spécifique sur ces aspects?
Le protestantisme a un rapport à l'histoire de la tolérance en France, évidemment, parce que le protestantisme a été une minorité écrasée et qui a demandé la tolérance. Et je dirais cet archipel d'églises, il n'y en a pas qu'une seule, il n'y a pas que l'église réformée, toutes les églises un peu persécutées ont été aussi, le lieu d'élaboration d'idées de la tolérance très tôt, pendant les guerres de religion, pendant les persécutions évidemment. Et ça, Pierre Bayle est un exemple de ce genre de pensée. Donc il y a cette histoire ancienne du rapport du protestantisme à la tolérance. Et je dirais le paradoxe, c'est que finalement cette histoire qui était vraiment mise en avant, portée par la pensée protestante. Aujourd'hui, il me semble que finalement le mot tolérance, on va le voir, est un mot un peu mal aimé. Et finalement, personne n'aime la tolérance aujourd'hui, en fait, parce que du côté du droit, des libertés, de l'état de droit, on veut la justice, on veut la liberté, on veut pas la tolérance. D'ailleurs, le député Rabault, Saint-Étienne, protestait au moment de la Révolution française, on veut pas la tolérance, on veut beaucoup plus que la tolérance, on veut l'égalité. Et du côté des confessions attestantes, convaincues, tolérance, justement, c'est un mot trop flou, trop sceptique, trop relativiste, voilà. Donc d'un côté, il y a une sorte de condescendance qui est insupportable, de l'autre côté, il y a une sorte de scepticisme qui est insupportable aussi. Donc vous voyez, la tolérance, et pourtant, j'ai envie de dire, c'est un moment de transition important, et je dirais aussi c'est quelque chose que concrètement nous avons à vivre tous les jours dans la rue avec nos voisins, avec
presque par force.
Mais oui, ça fait partie en même temps des choses qu'on ne peut pas éliminer. Voilà.
Alors on va beaucoup en parler ce matin parce que demain c'est la Journée internationale donc de la tolérance. L'Organisation des Nations Unies s'est résolue en 1996 à renforcer la tolérance en encourageant la compréhension mutuelle entre les cultures et les peuples. En 1995, l'UNESCO adoptait déjà la déclaration de principe sur la tolérance à l'occasion de son 50e anniversaire, dans laquelle elle en donnait une définition dont voilà alors quelques éléments principaux qui vont peut-être nous aider dans notre discussion. La tolérance est le respect, l'acceptation et l'appréciation de la richesse et de la diversité des cultures de notre monde, de nos modes d'expression et de nos manières d'exprimer notre qualité d'être humain. Elle est encouragée par la connaissance, l'ouverture d'esprit, la communication et la liberté de pensée, de conscience et de croyance. La tolérance, c'est une vertu qui rend la paix possible et contribue à substituer une culture de la paix à la culture de la guerre. La pratique de la tolérance signifie que chacun a le libre choix de ses convictions et accepte que l'autre jouisse de la même liberté. Elle signifie l'acceptation du fait que les êtres humains qui se caractérisent naturellement par la diversité de leurs aspects physiques, de leur situation, de leur mode d'expression, de leur comportement et de leurs valeurs ont le droit de vivre en paix et d'être tels qu'ils sont. Elle signifie également que nul ne doit imposer ses opinions à autrui. Est-ce que tout ça vous convient? Il y a beaucoup de choses quand même.
Beaucoup de choses, ouais. Oui, c'est très riche, c'est très juste.
C'est votre définition
alors
à vous aussi?
Le philosophe, en même temps, moi je suis pas très très bon pour les définitions en général. J'aime bien juste utiliser les mots avec leur variation et essayer de comprendre pourquoi ça varie, pourquoi ces écarts de signification. Après, en même temps, c'est bien de mettre un peu d'ordre dans ces variations. Alors Ricoeur, justement, alors lui, il commence ses réflexions sur la tolérance en mettant en avant l'idée d'intolérable. On rentre dans la question de la tolérance par le sentiment qu'il y a quand même de l'intolérable. Un peu comme on rentre dans la question de la justice par le sentiment qu'il y a une injustice. C'est injuste. Et c'est une entrée intéressante parce que justement elle permet de voir chaque fois les limites, on va dire, comment la structure, comment ça se constitue aussi les limites. Alors, il y aurait deux directions. Il y aurait une direction qui serait plutôt verticale, qui viendrait des institutions, et qui serait l'abstention d'interdire, ne pas interdire. Tolérer, c'est vraiment, là, c'est le plan institutionnel, c'est le plan de l'état de droit, et ne pas interdire, ça présuppose une sorte de sacrifice de la part de l'état de droit, qui est le sacrifice de prétendre, lui, avoir le monopole de la vérité. Tiens, en fait, l'état de droit interdit à quelque institution que ce soit, y compris l'état, d'avoir le monopole de la vérité. Sinon, ça serait une institution totalitaire, justement. Ouais. Donc, c'est ça, l'état de droit. Et donc, c'est un sacrifice, quand même, parce que, autrefois, enfin, pendant des millénaires, les états avaient le monopole aussi de la légitimité, mais aussi de la vérité. Et de l'autre côté, il y a une dimension horizontale qui est le rapport entre les personnes, entre les citoyens, qui est d'admettre, d'accepter les différences, de reconnaître le droit pour les autres d'avoir leurs opinions. Et alors, d'après Ricoeur, et là aussi il y a un prix à payer, c'est d'accepter que les autres puissent renoncer à imposer sa vérité et accepter que les autres puissent être dans le vrai. Ça, c'est vraiment une des choses qu'on voit arriver avec la pensée de Pierre Bayle, c'est accepter qu'une certaine manière, nous sommes tous des consciences errantes. Nous avons un rapport à la vérité, mais qui est un rapport de chercheur, qui n'est pas un rapport de propriété, ni de monopole, etc. C'est un sacrifice parce que ça veut dire que ma confession n'est peut-être qu'une opinion parmi d'autres. Alors, ça, c'est un sacrifice.
En vous écoutant et en replongeant dans le texte de l'ONU qui parle de cette journée internationale, l'ONU évoque une période actuelle de l'histoire où les extrémismes, les radicalismes seraient manifestes et viendraient précisément s'opposer justement à la tolérance.
Ouais.
On a aussi entendu, là très récemment, le mot séparatisme revenir sur le devant de la scène. Mmh. Il y a là sans doute des aspects notamment liés bien sûr aux questions religieuses. Qu'en pensez-vous?
Je pense qu'en effet, on est dans une époque très périlleuse. Peut-être qu'il faut comprendre qu'il y a des régimes de cohabitation qui sont variables dans l'histoire. Nous sommes, si je puis dire, installés tranquillement dans la laïcité, mais il y a eu d'autres époques où on était dans une époque de, par exemple, les empires, l'empire austro-hongrois, l'empire ottoman, l'empire romain, qui étaient des empires multilinguistiques, multireligieux, multiethniques. Et lorsqu'on est passé du régime impérial au régime état-nation, la tolérance est apparue comme des droits individuels. Les individus sont très libres d'avoir les opinions qu'ils veulent, d'adhérer aux traditions, aux confessions qu'ils veulent, ou pas, d'être agnostiques, athées, etc. Voilà, ça c'est les droits individuels. Alors que le régime impérial avait, lui, une conception beaucoup plus respectueuse des traditions et donc des communautés. Mais du coup, les individus étaient un peu incarcérés dans leur communauté. Ça, c'est quelque chose qui est très bien montré par Michael Walzer dans son livre sur la tolérance. C'est un philosophe américain très intéressant sur ce sujet. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que, en ce moment, nous sommes dans une mutation du régime État-nation, qui est encore le nôtre, vers on ne sait pas quoi. Parce que la mondialisation, d'un côté, de l'autre côté, les réseaux, font qu'on est dans une sorte d'archipel de communautés, je dirais, un peu balkanisées, un peu enfermées chacune dans leur identité, éventuellement dans leur identitarisme. Bon. Et de l'autre côté, il y a la mondialité qui érode toutes les différences et qui impose une sorte de relativisme très brutal. En fait, on est sur le marché des opinions, sur la tolérance, c'est le marché des opinions. Et ça, c'est quelque chose qui lamine les différences très vite. On va vers autre chose, et donc c'est un moment extrêmement dangereux parce que d'un côté il y a ces radicalisations religieuses, parce que il faut comprendre que de la part d'une confession religieuse, être traité comme une opinion parmi les autres, c'est extrêmement
c'est presque inacceptable,
c'est extrêmement dur. Et c'est la raison pour laquelle une grande lectrice de Pierre Bayle qui s'appelle Elisabeth Labrousse, reprise d'ailleurs par Ricoeur, faisait la distinction entre la tolérance civile et la tolérance ecclésiastique. Elle disait, attendez, avec Bayle, avec Pierre Bayle avait dit, la tolérance à l'intérieur d'une église, on ne peut pas obtenir ça. Une église peut être intolérante en son sein, mais dans l'espace civil, dans l'espace de droit. Donc on va décoller l'espace constitutionnel, qui est vraiment l'espace dans lequel forcément on est tolérant, parce qu'il y a des différences, il y a plusieurs traditions, etc. Ce que montrait déjà l'édit de Nantes, qui était quelque chose de tout à fait prophétique, à une époque de monopole religieux dans chaque État.
Est-ce que l'on pourrait dire que tolérance et protestantisme, pour reprendre une chanson bien connue, sont deux mots qui vont très bien ensemble?
Peut-être, mais alors... Je dirais que c'est un peu inattendu, parce que finalement, quand on lit Calvin, par exemple, on voit très bien l'imaginaire qu'il y a autour de Calvin et de Genève, une sorte de théocratie, etc. Bien sûr, quand on regarde dans le détail, j'ai écrit un livre sur Calvin, on voit que c'est extrêmement différent. Et justement, la surprise, c'est que la Genève de Calvin était la grande ville des libertés. C'est là où tous les imprimeurs d'Europe sont venus faire... C'était la ville qui concentrait le maximum d'éditeurs libres. Et ces libertés, on les voit aussi dans les pays calvinistes, les Pays-Bas, qui étaient un des rares pays calvinistes, comme l'Écosse, hein. C'était un pays de grande tolérance et de grande liberté. Donc, de fait, oui, mais je dirais, ce n'était pas du tout prévu au départ. Je pense que c'est à cause de l'ecclésiologie. C'est la forme de l'église protestante qui ait le droit de partir. On peut quitter son église pour aller dans une autre église, pour créer une autre église, et éventuellement pour quitter peu à peu toutes les églises. L'originalité du protestantisme, elle est là. Il allume une mèche qui va lui-même le disperser, en faire un archipel d'églises dont plus aucune ne peut prétendre avoir le monopole.
Vous avez cité plusieurs fois déjà Pierre Bayle. Oui. On dit de lui qu'il était un apôtre de la tolérance, c'est comme ça qu'on le présente.
Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui un petit peu plus, là, mieux le connaître en quelques mots, rapidement?
Oui, deux mots, je dirais, d'abord, c'est un exilé. Je pense que la tolérance a été vraiment d'abord vécue dans la chair de tous ceux qui ont été persécutés et exilés. Alors lui-même, il était fils de pasteur, il s'est converti au catholicisme quand il était adolescent, étudiant, puis reconverti au protestantisme, et donc il était, comme on disait à l'époque, relapse, retombé dans l'erreur. Et donc il a été chassé du royaume de France à l'époque de Louis XIV, et puis son frère, qui était pasteur lui aussi, a été mis en prison, il est mort en prison. C'est à ce moment-là que Pierre Bayle écrit ce traité de la tolérance. Il est réfugié aux Pays-Bas, il écrit ce traité sur la tolérance, qui est un commentaire philosophique sur les paroles de Jésus-Christ contraint-les d'entrer. C'est ça le titre exact, qui était commenté par Augustin pour justifier la persécution et la répression des donatistes, d'une hérésie. Donc forcer les hérétiques à rentrer dans la vraie église, dans la bonne église. Bayle, en quelque sorte, est un de ceux qui fait exploser, je dirais, le couvercle constantinien, l'idée que c'est normal que l'église et l'État soient en collusion et qu'il va faire cette espèce de séparation entre les deux registres, et sous l'idée que, comme il dit, les droits de la conscience sont les droits de Dieu lui-même. Tiens, en fait, même une conscience dans l'erreur, dans la mesure où, en toute sincérité et en toute liberté, elle cherche le vrai, eh bien, on ne peut pas plus la contraindre que de changer de couleur de ses yeux ou d'aimer un poisson qu'elle n'aime pas. Il y a des choses à quoi on ne peut pas obliger. Et Ricoeur, là, il a eu juste un commentaire, c'est qu'il dit, enfin, pas sur Bayle, mais en général, il dit, la tolérance, c'est de respecter en l'autre l'idée que l'autre, sa vérité, il y adhère librement. Et ce n'est pas quelque chose à quoi on le force. Parce que tant qu'on pense que l'autre est forcé, ben, on peut, à notre tour, le forcer. Puisqu'il a été forcé par d'autres, on peut nous le forcer. Non, l'autre est libre. Le respect, c'est de penser que l'autre est libre.
Alors justement, Paul Ricoeur, je vous propose de l'écouter dans un extrait sonore d'une conférence « La tolérance, une ascension ardue ». C'est le titre donc de cette conférence. Alors juste un très court extrait, mais on va en reparler derrière.
La voie de la tolérance peut être vue comme une initiation progressive, non comme une pratique facile de plein pied, si j'ose dire, mais comme une ascension ardue.
Dans cette conférence, Paul Ricoeur développe différentes positions progressives dans le concept de tolérance. Il dira aussi « La tolérance n'est pas une concession que je fais à l'autre, elle est la reconnaissance du principe qu'une partie de la vérité m'échappe ». Alors vous qui l'avez côtoyé de très près comme élève, mais aussi comme ami, est-ce que cette approche vous convient ?
Disons que ce qui est important dans cette démarche, en fait, c'est que elle montre qu'il y a une gradation dans la tolérance. Il part de l'idée d'une tolérance, je dirais, degré zéro, qui est à peine une tolérance, qui est juste de se résigner à ce qui existe, puisque je peux pas le faire autrement, ben je l'accepte parce que je suis bien obligé. Puis après, il va monter par degrés, donc il faut de tout pour faire un monde, donc il faut aussi que ça existe, tant pis, voilà, ça fait partie. Puis après, un régime médian de reconnaissance mutuelle, et c'est ça qu'il vient de dire, là, c'est la réciprocité des droits, une sorte de renoncement simultané à prétendre avoir le monopole de la vérité pour reconnaître la place de l'autre. Mais ça va plus loin, ça peut aller vers une sorte de bienveillance respectueuse, près de curiosité, de désir d'apprendre avec l'autre, sans y adhérer, au moins pour pouvoir comprendre l'autre. Et puis, ça peut se terminer même, alors le sommet qui n'est même plus de la tolérance, c'est l'enthousiasme pour la différence. Il faut qu'il y ait des différences, il faut qu'il y ait le plus de différences possible. Et là, pour lui, c'est, à la limite, ce n'est même plus de la tolérance. Donc, il y a une gradation, et il appelle ça une sorte d'ascèse. Mais je pense que c'est le moment médian qui est le moment central pour lui.
Alors, je vous cite, en reprenant un extrait d'un de vos articles, une société tolérante, c'est d'abord une société qui est sortie des guerres de religion.
Oui, je pense que c'est important, parce qu'on a une conception justement de la tolérance un peu trop condescendante. Je tolère, c'est pas grave, je suis au-dessus de ces chiffons obscurantistes, j'ai pas besoin de me battre pour ça.
C'est une façon un peu de...
Oui, ouais, c'est ça. On est au-dessus de tout ça, on est de toute façon, les religions, c'est des pauvres cons, ils peuvent croire à n'importe quoi. On s'en fiche un peu. Il y a cette conception-là de la tolérance, c'est pas le vrai chemin de la tolérance. Le vrai chemin de la tolérance, Pierre Bayle le montre bien, c'est au contraire l'acceptation que nous sommes dans les ténèbres. C'est pas un chemin des lumières au sens des lumières qui viennent d'en haut. C'est des lumières qui commencent à poindre à partir d'en bas parce qu'on est dans les ténèbres et qu'il faut bien, dans la guerre même, trouver un modus vivendi. Comment est-ce qu'on va cohabiter alors qu'on pourrait continuer à se battre jusqu'à s'entre-détruire entièrement les uns les autres? Il y a bien un moment où il faut arrêter la guerre. Ce moment dans l'histoire de la tolérance est un moment très important qu'il ne faut jamais oublier parce que la guerre civile n'est jamais très loin.
Alors justement, les guerres de religion, les guerres civiles, les batailles de notre société, elles sont très diverses. Je vous propose un second extrait sonore. Alors là, d'un registre très différent. Cette fois-ci, nous sommes le 3 avril 1968 et c'est le pasteur Martin Luther King qui livre son tout dernier discours à Memphis, dans le Tennessee. On écoute.
Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life, longevity.
Je ne sais pas ce qui va arriver maintenant. Nous avons devant nous des journées difficiles. Mais peu m'importe ce qui va m'arriver maintenant, car je suis allé jusqu'au sommet de la montagne. Je ne m'inquiète plus. Comme tout le monde, je voudrais vivre longtemps. La longévité a son prix, mais je ne m'en soucie guère maintenant. Je veux simplement que la volonté de Dieu soit faite. Et il m'a permis d'atteindre le sommet de la montagne. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la terre promise. Il se peut que je n'y pénètre pas avec vous, mais je veux vous faire savoir ce soir que notre peuple atteindra la terre promise. Ainsi, je suis heureux ce soir, je ne m'inquiète de rien, je ne crains aucun homme. Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur.
Mais c'est magnifique. Oui.
Ouais.
C'est magnifique.
On était juste avant qu'il ne soit assassiné, en
oui,
plus.
Oui, oui.
Et puis la voix et les mots du pasteur Martin Luther King, prix Nobel de la paix, donc militant iconique de la lutte pour les droits civiques, en choisissant, lui, la non-violence comme arme de guerre, entre guillemets. Seriez-vous d'accord de dire qu'une tolérance active, et j'insiste sur le mot active, contribue au témoignage de l'Évangile?
Absolument. Alors là, justement, ça ajoute une troisième dimension. Il y avait la dimension, je dirais, de la tolérance instituée par un État neutre, on va dire. Neutre et, je dirais, protecteur des minorités. C'est important parce que les majorités sont toujours dangereuses. On est bien placé pour le savoir. Attention, il y a des majorités dangereuses. Il y a un deuxième niveau qui était le niveau civique dans lequel, entre elles, les différentes traditions, confessions, etc., se respectent mutuellement. Mais il y a un troisième niveau qui est l'accès à la tolérance de l'intérieur de l'Évangile lui-même, de l'intérieur d'une tradition théologique. On peut insister sur le fait qu'il y a une composante critique de l'intérieur du christianisme, qui n'a cessé de travailler le christianisme. Il y avait un christianisme officiel, un christianisme d'État, mais il y avait aussi un christianisme qui, je dirais, au contraire, de l'intérieur, revenait aux sources de l'Évangile et du christianisme avec je dirais, un passage de la violence de la conviction. Une conviction peut être véhémente, peut être violente. Mmh. Eh bien, justement, elle renonce à cette violence. On le voit chez Tolstoï, par exemple, c'est extrêmement fort, qui est un non-violent radical, mais aussi chez les Quakers, chez les Mennonites, etc. À la non-violence du témoignage. Un témoignage radicalement non-violent. D'ailleurs, Pierre Bayle ne cesse d'insister sur le fait que l'évangile est débonnaire, comme il dit. Mmh. Ça veut dire d'accepter qu'on n'a que la parole. On n'a que la parole avec ses forces, mais aussi sa faiblesse. Et cette faiblesse de la parole, elle est importante parce que ce que ça indique, c'est bien sûr, il y a cette dimension prophétique. Hein, on voit, et là, il est pratiquement comme Moïse qui voit la terre promise, ouais, mais ouais, qui va mourir avant de l'atteindre. Ça veut dire que c'est inachevé, peut-être inachevable. Mais c'est l'idée, et qui aujourd'hui pourrait être oubliée, y compris à l'intérieur du christianisme, que le pluralisme n'est pas quelque chose qui arrive avec la sécularisation, avec les Lumières, etc. Le pluralisme fait partie des convictions évangéliques. Les églises primitives, disait Ricoeur, c'est un archipel de communautés, c'est pas une église monolithique. Et il y a une diversité de témoignages, il y a 4 évangiles. Donc c'est une tradition qui est d'origine pluraliste, et il faut raviver ce pluralisme pour comprendre la force d'un évangile qui est fondé sur une toute nouvelle conception de Dieu, finalement.
J'ai remarqué que le mot « accepter » venait souvent dans votre bouche pour parler, oui, de la tolérance.
Oui.
Est-ce que tolérer, c'est nécessairement tomber dans le relativisme qui, oui, affirme que tout se vaut, alors on accepte? Mm-hmm. Comment sauver l'idée qu'il existe une vérité tout en continuant à promouvoir la tolérance? Mm-hmm. Et d'ailleurs, est-ce bien nécessaire de revendiquer, mm-hmm, une vérité? Mm-hmm. Ce rapport à la vérité aussi est là, sans doute. Vous,
oui,
l'avez un tout petit peu évoqué tout,
oui,
à l'heure,
c'est
aussi.
Oui, important, c'est important, la vérité. La vérité vous affranchira, dit Jésus. C'est une parole extraordinaire. Ça veut dire qu'il n'y a de rapport à la vérité que libre. À mon avis, c'est absolument fondamental. Pour moi, philosophe, oui, c'est absolument fondamental. Le relativisme, c'est vraiment le plus grand péril aujourd'hui, certainement. Ricoeur insiste là-dessus, sur le fait qu'il y a une érosion des convictions par le fait même de reconnaître la possibilité qu'il y ait des autres, que nous sommes un parmi. Ce qu'il faut arriver à retrouver, dans ce que j'appelais à l'instant le pluralisme, c'est le désir de différer ensemble, accepter qu'il y a plusieurs manières d'interpréter l'existence, d'interpréter le fait d'être né, la grâce d'exister d'une certaine manière, chanter même la louange d'exister. Bon, ça, je dis ça parce que c'est très important dans la liturgie protestante, à mon avis. Cette diversité, elle n'est plus relativiste. Elle est au contraire, chacun a sa voix, chacun a son témoignage, porte avec ferveur son témoignage, mais en s'effaçant devant les autres témoignages. Ce qui serait contradictoire, ce serait un témoignage qui prétendrait être le seul témoignage. Voilà. Un témoin qui prétendrait dire « Non, taisez-vous les autres témoins, j'ai à moi seul la vérité. » D'emblée, il se contradirait lui-même. Oui. Un bon témoin, c'est quelqu'un qui témoigne, mais qui en même temps, au fur et à mesure qu'il témoigne, se retire pour dire « Non, mais la vérité est plus grande que moi, je laisse la place à d'autres pour dire autre chose sur cela qui nous dépasse. »
Alors, on parlait d'annonce de l'évangile, c'est peut-être là qu'il y a souvent le gros risque, d'ailleurs, dans le témoignage, dans l'annonce de l'évangile, de rentrer dans un discours qui oblige,
Oui, et puis même émotionnellement, aujourd'hui, nous sommes à l'époque des témoignages. Aujourd'hui, ce qui domine dans l'espace public, c'est les témoins. Peut-être que justement, on est d'une sorte de montée aux extrêmes de la figure de l'expert, d'un côté neutre, distant, et puis la figure du témoin qui est dedans, qui est impliqué, qui est ému, etc. Mais ça m'inquiète un peu, cette apothéose du témoignage, parce que du coup, on manque ce que j'appelais tout à l'heure la dimension critique, la dimension pluraliste. Pour nous, par exemple, dans la tradition religieuse, la dimension théologique. C'est pas uniquement des témoignages émus, c'est quand même, on s'inscrit dans une tradition, il y a une histoire, il faut la connaître, il y a des langues, il faut connaître la plus diversité des langues, rentrer un peu dans l'épaisseur de cette histoire des témoignages. Ça, je crois que c'est un travail proprement critique, si je peux dire. On a besoin de l'esprit critique pour cela, on a besoin de la liberté critique pour cela aussi.
Vous avez commencé avec Paul Ricoeur en parlant d'intolérable.
Oui.
Quelles seraient pour vous les limites de la tolérance?
Les limites de la tolérance, d'abord, il faut dire que Dieu, je pense que à la théologie,
oui.
Dieu, ce n'est pas un Dieu tout-puissant, c'est un Dieu qui s'est anéanti en Christ.
Est-ce que Dieu est tolérant?
Justement, Dieu, il est pas, je ne sais pas s'il est tolérant, ce qui a été intolérable pour les hommes, c'était un Dieu qui devenait un humain qu'on pouvait crucifier. Oui. Ça, c'était intolérable. Dieu s'est anéanti, c'est ce qu'on appelle la kénose, c'est quelque chose de très important. Il est sur une croix, un truc de vraiment d'esclave. Oui. Vraiment, c'est l'anéantissement le plus total. Il s'est vidé de sa puissance. Dieu s'est vidé de sa puissance. Donc, en ce sens-là, l'incarnation et la croix déjà préfigurent quelque chose comme cette parole qui s'affaiblit, qui accepte d'être faible, d'être résistible, de ne plus être irrésistible. Alors maintenant, qu'est-ce qui serait intolérable? Il y a des intolérables dans tous les sens. Ce qui est intolérable, c'est l'État qui prétend avoir la vérité. Ce qui est intolérable, c'est une tradition, une majorité qui écrase les autres, qui écrase les minorités. Ce qui est intolérable, c'est l'individu, fut-il le témoin de la foi, le champion de la foi, le plus convaincu, qui en quelque sorte prétend monopoliser la vérité et gérer la scène aux autres comme cela. Mais en même temps, il me semble que, comme disait Monod, Théodore Monod, il disait voilà, j'ai déjà du mal à arriver au sommet de ma montagne, de mon petit côté de la montagne, donc je ne peux pas prétendre connaître tous les côtés de la montagne.
Ça fait un joli écho à ce que disait Martin Luther King d'une certaine
complètement,
façon.
Complètement, complètement.
Est-ce que vous avez un dernier mot à laisser à nos auditeurs?
Peut-être, je dirais cette phrase magnifique de Paul Ricoeur, pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi. Il faut aussi exister soi-même, sinon on ne rencontre personne. Si on est dans un monde purement relativiste dans lequel il n'y a plus que des autres, et on peut être un autre parmi les autres, hein, comme si on était des espèces de touristes spirituels, eh bien, il n'y a plus de rencontres, il n'y a plus de conversations. Pour rencontrer un autre que soi, il faut accepter d'avoir un soi.
Merci beaucoup Olivier Abel pour ces échanges autour de la tolérance. C'était le service protestant sur France Culture proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Anne-Laure Chanel et avec à la prise de son Bernard Laniel. Un grand merci à mon invité ce matin, le professeur Olivier Abel, donc venu nous parler de tolérance à l'occasion de la Journée internationale de la tolérance, demain, lundi 16 novembre. C'est sur le site de franceculture.fr, mais aussi de protestantsaupluriel.org que vous pourrez réécouter cette émission. Le podcast, quant à lui, est disponible sur l'application de votre choix sous l'intitulé « Service protestant ». Vous pouvez enfin aussi nous écrire à « Service protestant », 47 rue de Clichy, 75009, ou plus simplement encore par email à communication@fédérationprotestante.org. Très bon dimanche à l'écoute de France Culture, où vous retrouvez maintenant les informations suivies de Talmudic présentées par Marc-Alain Wachnin.